des livres plein les oreilles. Bonjour mes amis, comment allez-vous? Clotilde Seille en votre compagnie pour vous présenter une nouvelle fois cette émission qui, vous le savez, ne se consacre qu'aux livres audio qu'on peut écouter sur sa chaîne YouTube ou qu'on peut également écouter en balado ou aussi bien sûr sur le site de Canal M ou encore à Canal M sur votre télévision. Je ne connais pas tous les numéros des canaux par cœur parce que ça dépend de votre câbleau distributeur. Cette semaine, des vies, des dégringolades et des renaissances. C'est ce qu'ont vécu, vivent encore ou vivront les personnes itinérantes. L'itinéraire, ce n'est pas seulement le nom du journal qu'ils vendent à la sortie de votre magasin ou de votre bouche de métro. L'itinéraire, c'est aussi celui de leur vie qui a été bouleversé d'une façon ou d'une autre. Non, c'est un petit peu comme un accident, ça n'arrive pas qu'aux autres. J'ai invité à l'émission Simon Bolduc, chargé de projet à la revue L'Itinéraire. C'est lui qui a mis sur pied le projet de permettre à une douzaine de ces itinérants, de ces personnes vivant en itinérance, de raconter leur histoire à voix haute au studio Bulldog. 12 témoignages donc qui se retrouvent sur le site de Nara. Je me suis dit qu'une émission qui se consacre aux livres audio, comme des livres pleins les oreilles, ne pouvait pas passer à côté de ces témoignages qui s'écoutent et qui portent tous le titre, si vous voulez. C'est comme chapeauté sous le titre qui est « Il y a 30 ans, j'étais ». Aussi à l'émission, on sait à quel point Jane Austen avait une belle plume, je veux dire une belle écriture, un beau style, appelez ça comme vous voulez, mais on ne peut pas en dire de son frère Francis. De vraies pattes de mouche, c'est un vrai cauchemar pour les conservateurs, de musée évidemment. Alors on cherche des gens qui voudraient bien essayer de décrypter, de déchiffrer les mots de Francis Austen. Pourquoi les chats sont-ils les rois ? Avez-vous lu Sa Majesté des Chats de Bernard Werber? Ça existe en audio et vous allez tout comprendre. Gérald de Cousineau nous évoque pour nous aujourd'hui un livre à côté duquel je suis passée. Vous aussi peut-être. C'est pourquoi je lui ai demandé de l'écouter pour nous. C'est Fabriquer une femme de Marie Dariussec. Et puis les nouveautés, Le couteau de Salman Rushdie et Un monde presque parfait de Laurent Gounel. Mais d'abord, ceci.
Qu'est-ce que vive l'itinérance quand t'es une femme? C'est très difficile. Beaucoup plus que celle vécue par les hommes, parce que quand t'es une femme, t'es en hyper-vigilance, t'as peur. Oui, tu peux être plus attaquée parce que t'es une femme, puis tu dois plus te protéger, puis surtout que ça paraisse pas. Mais toi, essaie de faire que ça paraisse pas quand t'es fatiguée, quand t'es en burn-out, que t'es déprimée. Tu peux pratiquement pas. Et la réalité de ça pour les femmes, c'est épouvantable, c'est effrayant. Moi, j'ai été 3 ans je suis allée entre autres à Oldbury Mission. Je me suis retrouvée dans des maisons de refuge pour femmes. Malgré la difficulté que j'ai vécue, j'en ai retiré quelque chose d'extraordinaire parce que j'ai compris beaucoup de choses. C'est sûr que la souffrance, ça te ramène à quelque part... j'ai envie de dire spontanément ce mot-là, ça te ramène à ton âme. Puis là, mais tranquillement, j'ai fini par reprendre confiance en moi. Mais ça, c'est grâce à l'itinéraire qui est vraiment... Oh, mon Dieu, pour moi, l'itinéraire, j'ai difficulté à en parler sans devenir fébrile, sans que mon rythme cardiaque s'accélère. Il y a une lumière, puis j'ai fait « Enfin, c'est ça. Je le sais que je suis à la bonne place. » Et là, je me suis enfin décidée, parce que c'était ma voie. C'était ça, le chemin que je devais suivre, pour enfin être heureuse, parce que je l'étais jamais.
Elle s'appelle Céline Marchand. Elle fait partie de ces 12 personnes vivant l'itinérance quotidiennement et qui s'en sortent en ce moment grâce à l'itinéraire qui a enregistré ce témoignage que nous venons d'entendre grâce à un homme que j'invite maintenant et que je salue. Il s'appelle Simon Bolduc. Simon Bolduc est chargé de projet au journalisme à l'itinéraire. Bonjour Simon.
Bonjour.
Quelle bonne idée. Non mais qu'est-ce qu'on peut dire d'autre que quelle bonne idée, parce que c'est vrai que on les lit de plus en plus, on les côtoie bien sûr, mais pouvoir nous écouter ce qu'ils étaient il y a 30 ans, ce qu'ils sont devenus, ce qu'ils voudraient devenir, c'est une idée qui a germé dans votre esprit, Simon?
C'est une idée à l'itinéraire qui germe dans nos esprits depuis très longtemps, l'idée de mettre de l'avant cette oralité présente chez les camelots et qu'on peut entendre, nous, les employés, les gens qui fréquentent les locaux de l'itinéraire, on entend ces voix-là, on entend ces témoignages-là oraux dans nos murs, puisque à l'itinéraire, il faut savoir que nous avons un café, le café de chez M. Paul, qui sert des repas complets par jour aux camelots, mais aux gens de la rue aussi. Donc, en bas, dans ce milieu de vie-là, il y a toutes sortes d'histoires à l'oral qui sont racontées. Et évidemment, en étant un magazine écrit, on prend ces histoires-là et on en fait de l'écrit, mais on perd parfois cette valeur-là orale.
Absolument.
Chaque camelot a une manière de s'exprimer qui est dure parfois de transposer dans un français lisible, là, disons plus standard. L'idée derrière ça, c'était de prendre la balle au bon. C'est notre 30e anniversaire. On sort cette édition littéraire-là qui réunit les plus grands noms du Québec, de Michel Tremblay à Éric Chacour, à des plus jeunes auteurs comme Jolaine Ruet. C'était de prendre cette opportunité-là pour mettre de l'avant, là, tu sais, l'auditeur n'a peut-être pas en tête le magazine là, dans les mains, mais il y a deux petites pages qui sont consacrées à ces témoignages audio. Donc, en lisant les textes de ces grands auteurs-là, on arrive à mi-chemin dans le tracé littéraire et on a un code QR qui nous mène vers 12 petits livres audio, petites capsules de 5 minutes. Et ça rentre dans le continuum de l'idée de créer peut-être un podcast, de créer en fait, il y a plusieurs choses qui germent en ce moment dans notre tête parce que vous êtes pas sans savoir que l'univers du magazine écrit est plus difficile qu'avant. On est dans des virages numériques pour certains grands médias comme la presse, Le Devoir, c'est plus facile. L'itinéraire, c'est notre modèle. Il faut du papier pour réaffilier les gens à la société et on se doit de rester papier. C'est tout le modèle de l'itinéraire qui tomberait si ce n'était pas le cas. Mais on veut faire partie de ce mouvement de transition numérique et tranquillement, pas vite, on essaie de voir des options. Et là, c'en était une parfaite pour tenter un premier jet d'audio. Et ce code QR-là nous lie directement sur la plateforme d'audio
Nara.
Plateforme québécoise
Nara,
qui est un partenaire de l'itinéraire. Et donc ça faisait du sens, ça avait beaucoup de sens pour nous de jumeler cette édition littéraire-là avec cette initiative pilote là, qui germe dans nos têtes depuis quelques années.
Je propose d'entendre tout de suite un deuxième témoignage et je ne suis pas une bonne fille parce que j'ai fait ça hier et j'ai complètement oublié de noter le nom. Je pense que vous allez me le dire. En tout cas, c'est un type qui a l'air pas mal formidable. On écoute un deuxième témoignage d'une de ces personnes qu'on appelle aussi désaffiliée. Hein?
Oui.
C'est bien ça.
J'allais partout dans les discothèques, c'est vrai que... au Limelight, on t'a reconnu le Limelight. Je parle un peu de Limelight, il y en a un qui s'appelait le gérant de Paul Vincent, puis il faisait toujours une ligne ouverte à CGMS, puis avec le temps, il m'avait amené à CGMS avec d'autres personnes, puis c'était le fun de voir des invités à Doudlage, puis Alain Mon Petit, tout ça fait là, on discothèque, la musique, puis on s'amusait pas mal. Là, à un moment donné, j'arrivais, puis là, je commençais avec la santé commençait à être bien maganée, l'estomac. À chaque fois que je buvais, je me ramassais à l'hôpital tout le temps. Ça a descendu bien, bien beau. Après ça, moi, j'ai décidé d'aller faire une petite thérapie. Puis j'étais allé voir une thérapeute. Puis la première, ça n'a pas marché. La deuxième, ça n'a pas marché. Puis la troisième, ça a vraiment bien marché. Puis c'est là que j'ai commencé à monter le... Tu sais, quand tu mets ton arme sur ton bateau, là, tu descends, ça va mal, puis là, t'en remontes tranquillement. Le jour que je suis allé à l'itinéraire, on était moi et une personne qui s'appelait Pierre. Puis on est allé voir, ça avait de l'air. Puis ça m'intéressait d'avoir des journaux vendre. Puis ça a vraiment bien roulé, mon affaire. J'ai été le meilleur vendeur pour eux autres. Là, avec le temps, j'ai commencé à faire les théâtres. Puis à ce temps-là, les théâtres, je pense que c'était vraiment la bonne condition pour moi. T'as des gens qui aimaient ça, lire, puis la culture, tu sais. Puis avec le temps, la seule affaire que j'ai vraiment aimée, c'est que j'ai travaillé au Nouveau Monde. Puis Mme Pintal m'avait dit une fois, elle dit, « Tu sais, Maxime, hein, t'es comme la famille ici. Puis on va te faire voir des pièces, puis monde, il n'y a pas de problème, puis tranquillement, pas vite. » Puis c'est là que les gens ont commencé à me connaître dans ce milieu-là. C'est un milieu, surtout d'un théâtre, c'est des clients réguliers aussi, tu sais. Puis il dit, hey, Maxime, je suis content de te voir, puis t'es encore en forme, puis si, puis ça fait combien de temps que t'es là, tu sais. Je m'appelle Maxime, ça fait 25 ans que je suis dans le journal L'Itinéraire. Pour la prochaine année, je me souhaite. Mais moi, je pourrais me souhaiter la santé et le bonheur. J'ai traversé une petite place très dure, mais la santé.
Où étais-tu il y a 30 ans? Un projet de récit audio réalisé avec des camelots de l'itinéraire pour les 30 ans du magazine. Le tout a été rendu possible grâce à la précieuse collaboration de Nara, unique plateforme dédiée aux livres audio francophones du Québec, et du studio d'enregistrement Studio Bulldog.
C'est tellement touchant. Non, mais vraiment, et c'est parce que c'est pas l'art moyen, je trouve. Et c'est là où c'est... On est dans la vérité. On n'est pas dans l'apitoiement. On est peut-être qu'on l'a été, mais en tout cas là, on l'est plus. Comment est-ce qu'ils ont reçu cette invitation-là, ces 12 participants? D'abord, est-ce que ça a été difficile de faire un choix parce que ça doit un petit peu.
Premièrement, je dois dire que je me réjouis de votre commentaire que du fait que ce n'est pas l'art moyen, c'était vraiment l'objectif. Les deux témoignages qu'on a entendus, celui de Céline et Maxime, sont peut-être les deux témoignages où on parle beaucoup d'itinérance. Dans les 12 témoignages, l'idée n'était pas la ligne directrice lancée au camelot n'était pas de nécessairement raconter leur histoire d'itinérance. C'était une question assez large de « dis-moi, tu étais où il y a 30 ans? » Et à travers d'autres témoignages, on n'est pas du tout dans l'itinérance. On est dans, je pense, à Jean-Claude qui personnifie Elvis et qui parle de son costume d'Elvis. À Stéphane aussi, un autre témoignage qui parle de son emploi Pizza Hut, du lien qu'il y a avec son père. Bref, c'était vraiment de parler de leur parcours, oui, mais de faire valoir cette vie-là qui est, disons, on a peut-être une perception de les gens quand ils se réinsèrent dans la société et on exige ça de ces gens-là qui sont loin, qui sont désaffiliés, pour les reconsidérer, alors qu'on oublie que même dans la rue, même dans des moments difficiles, même dans leurs passes les plus creux, la vie était encore là. Ouais. Ils vivaient encore des choses. Maxime, il raconte qu'il allait au Limelight.
Ouais.
Le Limelight était une discothèque à l'époque où il recevait David Bowie, des grands noms. Là,
ouais.
Et Maxime a vu David Bowie et il raconte ces histoires-là avec passion. Et c'était de faire valoir ces souvenirs-là, la personne, son histoire, malgré les embûches. Et parfois, on peine à considérer ces bribes de vie-là, alors qu'on questionne toujours ces gens-là sur leurs besoins primaires, est-ce qu'ils ont un logement, est-ce qu'ils ont un toit.
Ouais.
Mais ils ont des passions, ces gens-là, ils ont des rêves, ils ont des événements qui les émeut,
Absolument.
Ils ont des pères, des mères, des frères, des sœurs, c'est des frères et les pères de quelqu'un d'autre. Maxime s'ouvre dans son témoignage sur sa fille Natacha qui vit en Europe. Et si on ne s'attarde pas à l'histoire globale de la personne, on manque ce morceau-là qui est essentiel dans sa vie, dans sa belle vie. Disons, ils ont des parties belles, même dans la noirceur.
Oui.
Et pour revenir à votre question, est-ce que le choix a été difficile?
Oui.
Ça me met un sourire en coin, puisqu'on a une centaine de camelots qu'on appelle actifs à l'itinéraire. Donc, évidemment, c'était difficile. On avait l'objectif d'être paritaire aussi, puisque l'itinérance ou la vie, quand on se retrouve dans des situations très précaires, d'être un homme, une femme, d'être une personne qui s'identifie pas comme un homme ou une femme, c'est pas du tout pareil. Donc, c'est important pour nous d'avoir une parité, une diversité dans nos témoignages. Je pense à Chris Brown, qui est un témoignage en anglais qui parle des 60 scoops et comment il a été adopté par une famille militaire. Il s'est retrouvé, quand je parle de la vie,
il
s'est retrouvé à 8 ans à vivre en Allemagne de l'Est et avoir la chute du mur plus tard.
Chacune de ces personnes, c'est comme un roman ambulant, mais on ne voit souvent que la partie triste, mais il y a toute l'autre partie aussi, quoi.
Absolument, et c'est ça l'objectif dans les titres. Chaque titre est pensé, est un peu rigolo aussi. On n'est pas dans les petits titres qui accompagnent les témoignages. Ils sont intrigants, ils sont un peu rigolos, donc on veut pas, justement, je reviens à cette volonté-là de départ qui n'était pas de tirer l'alarme, de pleurnicher, c'était de rendre compte.
Mais de célébrer les 30 ans de l'itinéraire aussi. C'est quand même formidable d'avoir tenu ça à bout de bras et à bout de papier jusqu'à présent. On va écouter un troisième extrait, si vous le voulez bien. Et là, cette fois-ci, je l'avais noté, c'est celui de Jean-Claude Nau.
Ça n'a pas été facile de vendre au début dans la rue. Je savais pas comment le dire. Je me sentais pas à l'aise. J'étais au coin de Saint-Laurent et Sainte-Catherine. C'était mon premier point de vente qu'on m'a placé. Les centres sud, moi, j'ai été élevé dans le quartier où est situé l'itinéraire. L'église Saint-Vincent-de-Paul, j'ai été baptisé là. J'ai fait ma première communion là. Et j'allais à l'école Champlain, qui est tout près de l'itinéraire. Je vivais avec ma mère, puis j'avais ma grand-mère aussi pas loin. There must be lights burning brighter somewhere. Got to be birds flying higher in a sky more blue. If I can dream of a better land where all my brothers walk hand. Ma grand-mère avait une table tournante. Puis des fois, elle écoutait les vinyles d'Elvis. C'est là que j'ai commencé à vouloir danser comme lui, à chanter comme lui. Puis ça m'a rentré dans la peau. Puis j'ai dit à ma grand-mère, j'ai dit, c'est quoi t'écoutes là? Elle dit, c'est Elvis Presley. Elle dit, tu veux-tu l'écouter? Ouais, j'aimerais ça l'écouter. Puis là, j'y posais des questions s'il était décédé. Puis elle dit, oui, ça fait longtemps. Ah, oh, OK, ça fait longtemps. Wow. J'ai commencé à le personnifier sur scène en 94-95. Ça s'appelait La Relance. C'est un organisme qui était à tout près de l'itinéraire. Puis eux autres faisaient des concours amateurs avec tous les jeunes, les jeunes, les adultes du quartier qui pouvaient imiter toutes leurs idoles. Puis j'ai commencé à faire Elvis une fois en cuir. Puis ma mère, après la deuxième année, elle m'a fabriqué le costume d'Elvis, mon premier costume d'Elvis. Je l'ai encore à la maison. Je l'ai conservé. Je rentre encore dedans. Je rentre encore dedans, oui.
J'ai pas pu couper ça, je m'excuse, mais l'occasion était trop belle. Allez hop, là, de se mettre un petit peu de Elvis Presley. Dites-moi, il n'y a pas que... Bon, parce que il y a le théâtre aussi, il y a l'itinéraire, il y a vous offrez un nombre incalculable de manières de créer. Et je me disais, en les écoutant, et si un jour, il y en avait un qui écrivait un bouquin, et si un jour, il le lisait, est-ce que c'est de l'utopie ou...
Vous parlez d'un camelot qui écrirait un bouquin.
Oui.
En fait, c'est loin d'être de l'utopie. C'est quelque chose qui est fait, qui a été fait. Bon, à ma connaissance, l'itinérance, ça fait 30 ans. Je ne suis pas là depuis 30 ans. Je ne suis pas une archive ambulante, mais pas plus tard que cette année, et elle fait partie des 12 témoignages, la camelot Agathe Melançon, qui est camelot au métro Lionel Groulx.
OK.
Agathe a lancé son premier recueil auto-édité, mais avec une très belle reliure, une très belle pochette, une très belle couverture qui s'appelle Ligne.
Okay.
Et c'est un recueil de poésie qui est de très grande qualité. Agathe, qu'il faut savoir, et c'est ce qu'elle raconte dans son témoignage, elle faisait partie des groupes de poètes un petit peu, disons, subversifs, marginaux, mm-hmm. Au début, dans les années, je vais peut-être me tromper, là, mais je dirais 90, l'époque de Denis Vanier, de José Yvon, la librairie Le Chercheur de Trésors. Et elle raconte souvent comment elle participait à cette petite revue autoproduite là, très, très punk qui s'appelait Steak Haché.
Oui, effectivement.
Et Agathe a plongé de très jeune dans ce milieu de la poésie. Elle est encore très active dans le milieu de la poésie. Elle est connue aussi de ses fers. Et cette année, grâce à l'aide de bénévoles à la rédaction, grâce à l'aide des journalistes aussi à l'itinéraire, et surtout grâce à la volonté d'Agathe, elle a pu réaliser ce recueil-là, Ligne, qui est très, très beau.
Eh bien, je vais mettre Nara sur le coup, puis je vais leur dire, allez, hop, il faut enregistrer Agathe, quoi, parce que moi, j'aimerais beaucoup pouvoir accueillir Agathe à l'émission des Livres plein les oreilles. Comme je vous ai accueilli, Simon Bolduc, je rappelle que vous êtes chargé de projet à l'itinéraire, plus spécifiquement au rayon du journalisme, et c'est vous qui êtes à l'origine de cette initiative. Et je rappelle que pour écouter les 12 témoignages, allez sur nara.ca ou encore via la revue L'Itinéraire, on peut scanner quelque chose, hein, je crois, pour avoir accès à ces témoignages-là, au moins les lire. Mais là, pour les entendre, c'est sur nara.ca.
Oui, et je rappelle aussi que l'édition Tracé littéraire, même si c'est une parution d'avril, c'est une édition spéciale. Donc, votre camelot, le camelot que vous avez adopté, ou si vous croisez un camelot de l'itinéraire dans la rue, il devrait en avoir une copie si vous êtes chanceux.
Formidable. Je vous remercie tellement, 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 Simon, d'avoir participé à l'émission des Livres plein les oreilles. Et ben, écoutez, bonne continuation. Bonjour à tous ces camelots et que j'aimerais un jour pouvoir tous recevoir, bien sûr. Allez, Simon. De rien. Salut.
Au revoir.
Les chats sont-ils les rois? Voyez-vous, on reste un petit peu dans la rue avec ces animaux qui exercent une fascination toujours aussi vive. Les chats, bon, autrefois considérés comme des chasseurs de rongeurs, qui sont maintenant des compagnons précieux. Si on revient des siècles en arrière, vous savez que les chats en Europe, ils étaient vus littéralement comme les compagnons des sorcières. Au Japon même, on croyait que les vieux chats pouvaient se transformer en vampires. Imaginez. Alors c'est sûr que dans la culture moderne, ils ont perdu une part de leur mystère. Mais on se demande si les écrivains ne sont pas devenus écrivains en regardant leur chat. Écoutez, je vous propose tout de suite, pendant que j'ai encore le temps, un extrait de « Sa Majesté des chats » de Bernard Werber. Extrait. Everybody wants to be a cat, because a cat's the only cat who knows where it's at.
Quel autre défaut pourrait me définir? Ah oui, je suis gourmande. Cela me plaît d'avaler un moineau entier d'un coup, par simple gloutonnerie, alors même qu'il est encore vivant, pattes, bec, plumes compris. Il m'est arrivé d'ailleurs de le sentir se tortiller dans ma gorge pour essayer de remonter et de sortir de ma gueule. Je suis parfois cruelle. Je joue souvent avec des mulots. Je les éventre. J'extirpe leurs tripes. Je les entortille sur ma patte, sans pour autant les manger. Bon, ne jouez pas les outrés. Je suis sûre que vous aussi, vous avez dû faire la même chose à un moment de votre vie, ne serait-ce que quand vous étiez plus jeune. Bien sûr, à côté de ces légers défauts, j'ai des qualités qui les compensent largement. Ces mêmes mulots que j'ai un peu abîmés, je vais les offrir alors qu'ils sont encore délicieusement tièdes et palpitants, et je n'attends rien en retour. Je suis rapide aussi. Je parviens à attraper des mouches en plein vol. Essayez, vous verrez que cela demande un certain entraînement. Je suis souple. Je sais placer une patte au-dessus de mon oreille pour me lécher le fondement. Que puis-je dire encore sur moi d'intéressant? J'ai une sexualité épanouie. Je peux faire l'amour des nuits entières avec un grand nombre de partenaires successifs sans me lasser. Alors je hurle de toutes mes cordes vocales au point que les mâles et femelles vivant alentour sont mis au courant que je suis contente, ce qui les rend encore plus jaloux. Je n'aime pas les partenaires sexuels qui, durant l'acte, me mordillent ou me lèchent l'extrémité supérieure, voire à l'intérieur des oreilles. Quelle horreur! Une langue dans mon pavillon auditif. En plus, cela fait des bruits caverneux, c'est insupportable. Je n'aime pas la pluie. Je déteste avoir le poil mouillé. Je n'aime d'ailleurs pas l'eau en général. J'ai le souvenir terrible d'un bain dans un lavabo imposé quand j'étais encore toute jeune, dont je suis ressortie toute poisseuse. Je n'aime pas qu'on me dise ce que j'ai à faire. Je suis très indépendante. Je suis d'ailleurs inapprivoisable. Ni maître ni conjoint, cette devise me va bien. Elle est inspirée de l'une de celles de ma mère. Ni collier ni laisse. Sauf à l'occasion un collier anti-puce en cas de nécessité. Je déteste ces bestioles qui se glissent dans ma fourrure pour grouiller sur mon épiderme. Elles sont si petites que je n'arrive pas à les labourer dans mes poils avec mes griffes. Bon, j'imagine que vous avez le même souci. Qui n'a pas ces petits problèmes de parasites, vers ou puces? Quand je n'aime pas quelqu'un, j'urine sur l'endroit où il dort. Et mes phéromones sont si tenaces que l'odeur s'avère difficile à enlever. Au cas où cela ne suffit pas, j'urine directement dans sa nourriture. Là, normalement, il doit être parvenu à une idée précise de ce que je pense de lui. Voilà, je suis ainsi. Mais la chose dont je suis certaine, c'est que je m'aime moi-même. Je me trouve formidable. Si je n'étais pas moi, j'aimerais me rencontrer. Si j'étais un mâle, je tomberais amoureux de ma personne au premier regard. Et ce que j'adore par-dessus tout, ce sont les récentes aventures qui m'ont transformée de simple chatte d'appartement en conquérante visionnaire. Grâce à elles, je me sens capable à moi seule d'inventer un monde nouveau. Même si je suis un chat. Même si je suis une femelle. Ah oui, j'ai peut-être oublié de vous le préciser, j'ai un projet très personnel, un projet grandiose. Il peut se résumer en une phrase. Faire communiquer entre elles toutes les espèces. J'y reviendrai.
Et ce sera sa mission à cette chatte, faire communiquer toutes les espèces. C'était la voix de Christine Braconnier qui lisait un extrait de Sa Majesté des Chats de Bernard Werber. Je suis Clotilde Seille et vous écoutez Des livres plein les oreilles. Des livres plein les oreilles, seconde partie. Grande joie de retrouver l'ami Gérald Cousineau pour venir nous présenter un livre féminin, très féminin, que je lui ai proposé d'écouter pour nous. Peut-être parce que très égoïstement, je suis passée à côté de cette lecture et que j'aime bien revenir parfois sur mes pas et surtout d'ailleurs sur les mots des autres et surtout quand c'est Monsieur Cousineau qui vient nous les présenter. Ça s'appelle « Fabriquer une femme », quel titre quand même, de Marie Darieusec. Ce sera donc le livre en question. Pour finir, un extrait du livre de Salman Rushdie, « Le couteau », que je vous annonce depuis pas mal de temps, mais aujourd'hui je vous jure que ce sera la bonne. Et puis on ira à la rencontre du petit dernier de Laurent Gounel, qui nous raconte qu'un nouveau système électronique va probablement anéantir le monde. Non, j'ai pas dit l'IA. Vous Vous êtes-vous régalé, Gérald, avec ce bouquin « Fabriquer une femme » de Marie Darrieussecq?
Je dirais d'abord quelques mots pour ceux et celles qui ne la connaîtraient pas.
Oui.
C'est quand même le 20e livre de Marie Darrieussecq. Et vous avez peut-être lu, oh, Clotilde, tu as sûrement lu, je parlais aux auditeurs, qui n'a pas lu ou qui a lu son tout premier roman paru en 1996, Truisme.
Oui, absolument.
Ben, oui. Ben, où elle racontait la métamorphose d'une femme en truie.
Non, oui, 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 non, non, c'est, ah oui, oui, c'est quelqu'un, hein. Ah oui, oui. Et c'est vrai que finalement, c'est celui qui va rester, son porte-étendard, hein, je pense. Est-ce qu'on a parlé d'autres livres d'elle autant que de Truisme à l'époque?
Ben, on a parlé en 2013 de Il faut beaucoup aimer les hommes parce qu'il a gagné le prix Médici.
Ah, quand même.
D'ailleurs, je l'ai écouté pour les besoins de cette chronique. Donc, Marie Darrieussecq, née en 1969 à Bayonne, qui est dans le Pays Basque, je pense. Voilà, oui. Donc, née à Bayonne. Et ben, c'est le 20e roman. Donc, Fabriquer une femme. Eh ben, nous sommes dans les années 80, mm-hmm. dans une petite ville basque. Et nous avons deux jeunes filles, deux adolescentes, Rose et Solange, qui sont non seulement amies d'enfance, mais elles sont voisines et elles sont camarades du lycée. Alors, on va suivre leur trajectoire parallèle. Alors, les deux vont parfois s'éloigner l'une de l'autre, se rapprocher, s'éloigner de nouveau, etc. Donc, on va suivre leur trajectoire des années 80, justement, jusqu'au jour où elles seront adultes et occuperont des emplois. Bon. Alors, Rose est la plus sage des deux. D'ailleurs, il est dit quelque part que Solange va comme jeter un peu de désordre dans la vie de Rose. Mmh. Parce que Solange, c'est la désordonnée des deux. Hein. Mmh. Rose est une fille assez sage qui, d'ailleurs, va épouser son amoureux d'enfance, Christian. Mmh. Alors que Solange, elle, oh là là, elle multiplie les aventures, elle tombe enceinte à 15 ans quand même.
Ouais,
et là, ça nous vaut quelques pages. L'accouchement est difficile. Oh là là!
Ah oui.
Ah, oh, j'ai failli pleurer.
Ah non, non, mais écoutez, c'est...
Non, mais c'est bien raconté.
Oui.
Mais vraiment, là, elle passe un mauvais quart d'heure, cette pauvre Solange. Oh. Elle va d'ailleurs laisser son enfant, son petit garçon, à sa mère, parce qu'elle... Elle a eu la piqûre du théâtre. Alors, elle va quitter sa petite ville basque, elle va se retrouver à Bordeaux, ensuite à Paris, puis à Londres et enfin à Los Angeles. Bon, je vais un peu vite en affaire, mais c'est parce qu'elle se promène beaucoup, cette Solange. Donc, elle part du lycée, moment où elle vient d'accoucher, elle se retrouve donc à Bordeaux, et là, c'est la piqûre du théâtre, Paris, Londres, etc. Elle va se faire un nom tranquillement, mais... à ce moment-là, bien sûr, le cinéma, le théâtre, le cinéma surtout, c'est un univers masculin.
Mais oui.
Il y a même une allusion, à un moment donné, elle est à Los Angeles et elle rencontre un important producteur. Tiens.
Ah oui, je vois,
et
oui.
À peine entrée dans la chambre, elle en ressort tout de suite.
Oui, oui.
On devine que c'est peut-être celui dont on a beaucoup parlé.
Absolument, absolument.
Voilà. Donc, c'est dans ce sens-là.
Et dont on ne veut même plus dire le nom.
Non. Donc, le roman est très collé à la réalité. D'ailleurs, l'écrivaine elle-même va parler de MeToo. Mais avant d'aller plus loin, j'aimerais qu'on écoute l'extrait parce qu'il nous situe justement au début du récit.
Oui, c'est ça. On écoute ça.
Tu vas aller porter cette boîte de chocolat chez Solange. Des chocolats de la meilleure pâtisserie, celle de Bessude. Au dernier moment, maman ajoute une petite céramique qu'elle vient de terminer. Une sorte d'oiseau aux ailes mi-ouvertes. Qu'elle emballe dans du papier de soie. Il faut prendre soin des gens qu'on aime. Rose tient la boîte et l'oiseau comme deux grenades amorcées. Il y a un rideau, c'est nouveau, que Solange soulève avec l'air d'une condamnée à mort, ça promet. Sa meilleure amie est seule, allongée dans le vieux canapé débordant de couverture. Ça sent la clope et le linge mal séché. Sa mère est à la boutique, c'est un soulagement. Où s'asseoir ? On dirait que son ventre, sur lequel il est difficile de ne pas poser les yeux, va faire sauter sa tête hors du cou. Poc ! Rose essaie de ne pas penser qu'il y a réellement un bébé là-dedans. Un vrai être humain avec une tête, deux bras et deux jambes. C'est incompréhensible de toute façon. Tiens, la part de ma mère. La gentillesse est une valeur dont Rose n'est pas très sûre. Par exemple, Christian est le garçon le plus gentil qu'elle connaisse. Mais les autres ont tendance à se moquer de lui. Solange déballe l'oiseau et lui caresse les ailes. Ma mère dit que si tu as besoin, on est là. Solange émet un bruit par le nez. Je peux te rattraper les cours si tu veux. Solange regarde par la fenêtre.
Oui, alors là, on n'est pas sûr. Hein. Amis, plus amis, on ne sait pas trop, mais avec ce que vous nous avez raconté, on sait que parfois c'est comme ça, elle se rabiboche, elle se resépare, etc. Les années 80, je pense, font partie du décor, avec tout ce que ça comporte, hein, la chute du mur, le sida,
oui,
tout ça.
Oui, d'ailleurs, ne serait-ce que pour les relations entre garçons et filles, elle va dire que Christian est un garçon bien gentil.
Oui.
Christian passe un peu pour une feuille pour les autres garçons, parce qu'il n'est pas macho du tout.
Ah.
Alors qu'au Pays Basque, à ce moment-là, selon l'écrivaine, bien sûr, les garçons se doivent d'être un peu durs là,
oui,
avec les filles. Hein, puis, ils vont prendre un coup, etc. Bon. Mm-hmm. Alors que Christian, ce n'est pas du tout ça. Donc, mais je voulais dire aussi que le roman est divisé en trois parties. La première, c'est ça s'appelle « D'après Rose ». Donc là, on a comme le point de vue de Rose. La deuxième partie, c'est « Selon Solange », donc le point de vue de Solange. Et la troisième, c'est « Ensemble ». Parce qu'à la toute fin, alors que Solange est rendue à Hollywood, et oui, elle va avoir la visite. En fait, elle invite sa copine Rose et toute sa famille, sa petite famille, parce que Rose a déjà des enfants, à venir à Hollywood. Alors là, il y aura une première de film, parce que Solange a eu enfin un petit rôle dans un film. Mais surprise pour Solange, le réalisateur a coupé toutes les scènes où elle apparaissait. Elle se prend une claque. Mais c'est pas grave, elle en a vu d'autres. Et c'est ça que le livre est, enfin, j'ai envie de dire amusant aux dépens de Solange. Mais c'est pas une... c'est pas toujours facile, ce métier, on le sait. Hein, théâtre, le cinéma surtout, c'est pas toujours facile. Mais j'ai eu plus de plaisir à réécouter le livre qu'à la première écoute.
Ah, OK.
Parce que le style est très alerte. Hein.
Oui.
D'ailleurs, Mme Darrieussecq est écrivaine, mais j'ignorais qu'elle était aussi psychanalyste.
Ah.
Mais jamais, jamais, elle ne va porter de commentaires moraux sur les agir de ses personnages. Jamais, jamais, jamais. Donc, les personnages se fabriquent en quelque sorte elles-mêmes, avec les moyens du bord, c'est quasiment dit de cette façon-là. Elles vont prendre des morceaux et ici et là, elles vont se faire une carapace. Donc, elles se fabriquent, d'où le titre, sans doute, fabriquer une femme. Elles vont
Quel
se fabriquer
titre?
Alors que... Elle vit dans un univers masculin, domination masculine, il ne faut pas l'oublier, là.
Oui, oui, oui. Et alors, quel titre, hein? Fabriquer une femme.
Oui, mais je pense que le titre est très bon, dans ce sens-là, qu'ils doivent se fabriquer une...
Une carapace.
Et bien sûr, l'écrivaine va dire dans une entrevue qu'elle est partie un peu de la fameuse citation de Simone de Beauvoir, « Bon, on ne naît pas femme, on le devient.
Mm-hmm. »
Elle voulait s'en éloigner, mais en même temps, elle ne peut pas s'empêcher de penser à cette phrase de Simone de Beauvoir. Et c'est ça, dans le roman, on a vraiment deux jeunes adolescentes qui vont devenir des femmes et qui vont l'apprendre et qui vont y arriver par leurs propres moyens, en bonne partie en tout cas. Et ça, c'est intéressant, parce qu'on parle quand même des années 80 jusqu'à aujourd'hui, finalement. Là.
Absolument. Ça s'appelle « Fabriquer une femme » et c'est de Marie Darrieussecq. C'est son 20e roman, vous nous disiez.
Déjà.
Incroyable. Et écoutez, Gérald, si je ne m'abuse, on devrait vous retrouver encore une fois d'ici la fin de la saison, je pense. Ce sera pour la diffusion du 20 juin prochain.
Oui.
Et ce sera notre dernière, en tout cas, de saison régulière. Parce que je profite, j'ai un petit peu de temps devant moi pour préciser à nos auditeurs que cet été j'ai mis sur pied une émission des livres pleins les oreilles un peu plus estivale, ça s'appelle des livres pleins les oreilles en vacances et c'est pour donner plein d'idées de livres
lire,
peut-être sans se prendre la tête, vous savez, des choses sympathiques, bon peut-être aussi des choses d'histoire mais toujours relativement légères et puis ben, en même temps qui donnent à c'est un bon moyen parfois, oui, pour rire, mais aussi pour s'instruire, aussi pour s'émouvoir. Mais ce sont tous des livres d'été. Voilà. Alors, mais donc nous, on va d'ailleurs se retrouver une fois, hein, il me semble, au cours de ces livres d'été-là. C'est ça.
Très bientôt pour parler d'un roman québécois cette fois. Voilà.
Ah oui.
La version qui n'existe pas, un truc.
C'est ça. De Mademoiselle
Pierrot.
Emmanuel Pierrot qui veut qu'on l'appelle Pierrot d'ailleurs. Alors écoutez, je vous souhaite une très belle fin de journée, cher ami, et je vous dis à la prochaine.
Apparemment.
Salut. J'en parle depuis longtemps, mais c'était toujours un petit peu difficile. Vous savez, parfois, je suis prise par le temps parce que lorsque j'ai des intervenants qui sont intéressants, comme Gérald ou comme l'a été Simon Bolduc en première partie, eh bien oui, je viens me rogner un petit peu sur des choses qui sont prévues. Alors, je suis obligée de décaler les livres dont je voulais parler. Vous êtes au courant de toute la cuisine de l'émission des livres plein les oreilles. Mais là, il fallait vraiment que je vous parle de ce livre, Le Couteau, de Salman Rushdie, lu par Clément Bresson. Salman Rushdie qui a dit au sujet de ce bouquin, il était essentiel que j'écrive ce livre, c'est une manière d'accueillir ce qui est arrivé et de répondre à la violence par l'art. De quoi s'agit-il? Peut-être certains d'entre vous ont-ils oublié, mais pour la première fois, Salman Rushdie s'exprime sans concession sur l'attaque au couteau dont il a été victime le 12 août 2022. C'était aux États-Unis. Et c'était plus de 30 ans après la fatwa qui a été prononcée contre lui. Et là, dans Le Couteau, le romancier lève le voile sur sa longue et douloureuse traversée pour se reconstruire après un acte d'une telle violence. Ça n'a pas seulement été physique, ça a été psychique, psychologique aussi. Jusque finalement au miracle d'une seconde chance. On nous dit que ce livre, Le Couteau, se lit comme une réflexion puissante, intime et finalement porteuse d'espoir sur la vie, l'amour et le pouvoir de la littérature, et c'est également une ode à la création artistique comme espace de liberté absolue. Extrait de Le Couteau de Salman Rushdie, lu par Clément Bresson.
On peut donc en déduire que quels qu'auraient été les motifs de l'agression, ce n'étaient pas les versets sataniques qui étaient en cause. Je vais tenter dans ce livre de les comprendre. Le matin du 12 août, nous avons pris un petit déjeuner de bonne heure en compagnie des mécènes de la manifestation, à l'extérieur, sur la terrasse ensoleillée du majestueux hôtel Athénéum de l'institution. Je n'aime pas les petits déjeuners copieux et je me contentais d'un café et d'un croissant. J'ai fait la connaissance du poète haïtien Sonny Ton-Aimé, qui dirige le département des arts littéraires Michael I. Ruddle de Chautauqua, et qui était chargé de nous présenter sur scène. Nous avons brièvement parlé de livres et de la question de savoir s'il est bien ou mal de commander de nouveaux ouvrages sur Amazon. J'avoue qu'il m'est arrivé de le faire. Puis nous avons traversé le hall de l'hôtel, franchi une petite cour pour gagner les coulisses de l'amphithéâtre, où Henry m'a présenté à sa mère nonagénaire, ce qui fut charmant. Juste avant que nous n'entrions en scène, on m'a tendu une enveloppe contenant un chèque, les honoraires de mon intervention. Je l'ai glissé dans la poche intérieure de ma veste et il était l'heure de commencer. Sonny, Henry et moi sommes entrés en scène. L'amphithéâtre peut accueillir plus de 4000 personnes. Toutes les places n'étaient pas occupées, mais il y avait beaucoup de monde. Nous avons été brièvement présentés par Sonny, qui s'exprimait à un pupitre placé à gauche de la scène. J'étais assis à droite. Le public applaudit chaleureusement. Je me souviens d'avoir levé la main pour le remercier. À cet instant, du coin de mon œil droit, et c'est bien la dernière chose que mon œil droit aura perçue, je vis l'homme en noir foncer vers moi en descendant l'allée située du côté droit des sièges. Vêtements noirs, masque noir sur le visage, il arrivait menaçant et concentré, un véritable missile. Je me levai, le regardai approcher. Je n'ai pas tenté de fuir. J'étais pétrifié. Il s'était écoulé 33 ans et demi depuis la fameuse condamnation à mort prononcée par l'ayatollah Ruhollah Khomeini contre moi et tous ceux qui étaient impliqués dans la publication des versets sataniques. Et pendant ces années, je l'avoue, j'ai parfois imaginé mon assassin se lever de quelque assemblée publique ou autre et foncer vers moi exactement de cette façon. Aussi, ma première pensée, quand je vis cette silhouette meurtrière se précipiter vers moi, fut « C'est donc toi. Te voilà. » On raconte que les dernières paroles de Henry James ont été « Elle a donc fini par venir, la chose distinguée. » La mort venait à moi également. Mais elle ne m'a pas frappé comme une chose distinguée. Je l'ai trouvée anachronique. Ce fut ma seconde pensée. Pourquoi maintenant? Vraiment. Il s'est passé tant de temps. Pourquoi maintenant? après toutes ces années. Le monde était assurément allé de l'avant et cette question était réglée. Et pourtant, ici, approchant à toute vitesse, il y avait une sorte de voyageur temporel, un fantôme meurtrier surgi du passé.
Ça n'a rien à voir avec les versets sataniques. C'est vraiment un récit bouleversant que je vous recommande absolument. Le couteau de Salman Rushdie, alors qu'il revient sur cette violente attaque dont il a été victime le 12 août 2022. On change complètement d'univers avec Laurent Gounel et Un monde presque parfait. C'est lu par Mathieu Buscato. Le résumé est le suivant. Et si le pouvoir de décision était essentiel à notre humanité ? Un jeune homme, jeune chercheur, David Elisner, un type ambitieux, vit chez les réguliers. On les appelle comme ça. C'est une société hyper développée, hyper connectée, qui veille au bien-être, soi-disant, des individus. Non loin de là, il y a une région rebelle qui s'est coupée du monde. On les appelle, eux, les exilés. Fidèles à une certaine philosophie de vie, ils rejettent radicalement cette société hyper développée, hyper connectée. Alors David Elisner se voit confier malgré lui une mission de haute sécurité, se rendre dans ce territoire hostile et entrer en contact avec une certaine Eve Montoya, qui est la nièce et l'unique héritière d'un sociologue, d'un éminent sociologue du nom de Robert Solow, qui vient de décéder. L'objectif de David est récupérer un rapport explosif pouvant mettre en péril tout l'équilibre de la société des réguliers. Tout l'équilibre, pardon. Marie-Mée Eve, bon, est une jeune femme qui a la personnalité libre, qui n'entend pas du tout se laisser dicter sa conduite. Alors, évidemment, ça ne va pas se passer comme il le voudrait. C'est fort intéressant, hein, entre ces réguliers et ces exilés. Je ne sais pas, moi, je me suis mise à penser que c'était peut-être la peur de l'IA, l'intelligence artificielle, certainement. Enfin, je vous laisse découvrir ce livre, Un monde presque parfait, de Laurent Gounel, lu par Mathieu Buscato, dont voici un extrait.
La présidente soupire lentement, profondément. Le monde est en train de basculer, et personne ne s'en aperçoit. Personne n'a la moindre idée de ce qui se trame, de la menace qui rôde et des conséquences épouvantables dans la vie de chacun, dans l'équilibre de chaque organisation, de chaque entreprise, de chaque association, de chaque service public. Personne ne peut imaginer la catastrophe phénoménale qui s'annonce. Seule la présidente comprend que les espoirs d'y échapper sont aussi ténus que le fil de cette araignée. Si nous avions su que le système avait un tel talon d'Achille, l'aurions-nous utilisé pour faire évoluer cette société et la rendre aujourd'hui à ce point vulnérable ? Se demande-t-elle. Elle soupire de nouveau. Oui, sans doute. Le progrès technologique est dans les gènes de toute société humaine. Le progrès ne s'efface pas devant le risque. Le progrès est irrésistible, irréfrénable. Mais le progrès doit fournir la parade au risque qu'il a lui-même engendré, afin de poursuivre son insatiable développement. C'est une hydre éternelle et qui se veut bienfaisante. La présidente se tourne vers son bureau et appelle le Premier ministre. Le risque QC est avéré à court terme. Le moment semble opportun de faire le point sur l'avancement de notre projet défensif. Le Premier ministre raccroche et appelle le ministre de la Sécurité. Nous sommes menacés par le risque QC à très brève échéance. Il me faut en urgence un rapport sur le projet défensif, état d'avancement et délai de finalisation. Le ministre de la Sécurité raccroche et appelle le directeur de la Sécurité informatique, Éric Russel. Le risque QC est prêt à nous tomber dessus. Quand allez-vous enfin finaliser ce foutu projet défensif ? C'est une urgence absolue. Je veux un rapport détaillé avant demain 16h, et vous avez intérêt à ce qu'on y trouve du concret. Sinon, vous êtes viré, Russel. Éric Russel raccroche et avale sa salive. Vieux garçon, il est seul chez lui, attablé au bar de sa cuisine devant un hamburger réchauffé au micro-ondes. La vitre du four réfléchit son visage défait. Un visage fort, encadré de grosses lunettes en écaille et de cheveux grisonnants en désordre, à moitié hérissés. Il sent son cœur battre dans sa large poitrine à un rythme accéléré. le risque QC. Le cauchemar qui hante ses nuits depuis des années va-t-il se concrétiser sous ses yeux impuissants? Les injonctions du ministre résonnent encore à ses oreilles, comme s'il avait besoin de menaces pour avancer. Les pires sanctions seraient dérisoires à côté du tsunami économique et politique qui déferlerait sur le monde entier.
Très intéressant, Un monde presque parfait de Laurent Gounel, lu par Mathieu Buscato. C'est une nouveauté. Un classique, tiens, pour finir, parce que j'ai une histoire à vous raconter. Figurez-vous que, bon, quand on est conservateur de musée, ce qu'on aime bien, c'est découvrir des documents rares et précieux. Mais quand on est incapable de les lire, ouch. Le musée Jane Austen à Charlton, en Angleterre, a fait l'acquisition récemment de documents autobiographiques signés par un certain Francis Austen, qui est le grand frère d'une certaine Jane Austen. Mais il écrivait avec littéralement des pattes de mouche. Cet homme qui était d'abord un marin, sa vie n'a été que conflit, que longue traversée. Il est mort à l'âge de 91 ans. C'était le dernier survivant de tous les frères de la famille Austen. Et on dit que les pattes de mouche s'expliquent par le mal qui touche certainement Francis dans les dernières années de sa vie, c'est-à-dire l'arthrite. Écoutez, si vous voulez déchiffrer ça, vous pouvez aller sur janeaustens.house. Object, Memoir of Admiral. Si vous faites Admiral sur Francis Austen, vous allez certainement tomber là-dessus et ça devrait vous aider. On écoute un extrait de Emma de Jane Austen, sorti au début de l'année 2024.
Profondément son père. Mais ce n'était pas un compagnon pour elle. Il ne pouvait pas la contenter dans la conversation, le raisonnement ou l'amusement. Le désagrément qui résultait de leur écart d'âge, et M. Woodhouse ne s'était pas marié jeune, était aggravé par son tempérament et ses habitudes. Ayant été un hypochondriaque toute sa vie, sans activité physique ou intellectuelle, ses manières, plus que ses années, en faisaient un homme encore plus âgé. Et même s'il était partout apprécié pour sa bonté de cœur et son tempérament affable, il n'avait jamais pu compter sur les talents de sa raison pour faire bonne impression. Sa sœur, qui en comparaison n'avait été qu'un peu plus éloignée par le mariage, puisqu'elle s'était installée à Londres, à seulement 16 miles, était en revanche bien moins présente dans sa vie de tous les jours. Et il faudrait encore affronter de nombreuses et longues soirées d'octobre et de novembre à Hartfield, avant que Noël ne donne lieu à une nouvelle visite d'Isabella et de son mari, accompagnés de leurs jeunes enfants, pour remplir la maison et lui offrir à nouveau une agréable compagnie. Highbury, le grand village très peuplé et s'apparentant presque à une ville dont Hartfield faisait véritablement partie, en dépit de la prairie, des arbustes et du nom qui les séparait, ne lui apportait rien de tel. La famille Woodhouse était la plus notable en ce lieu. Elle était admirée de tous. Emma y avait de nombreuses connaissances, car son père se montrait toujours courtois avec tout le monde, mais aucune n'aurait pu se substituer à Miss Taylor, ne serait-ce que pour une demi-journée. C'était un triste changement, mais Emma ne pouvait que s'en lamenter et espérer des choses impossibles, jusqu'à ce que son père se réveille, lui imposant ainsi d'adopter un état d'esprit plus enjoué. L'humeur de ce dernier nécessitait du soutien. C'était un homme nerveux, facilement déprimé, qui appréciait tous ceux auxquels il était habitué et détestait s'en séparer. Il détestait toutes sortes de changements. Le mariage, étant source de changements, était toujours déplaisant. Il n'avait d'ailleurs pas encore pu s'accommoder du mariage de sa propre fille et ne parvenait toujours pas à parler d'elle autrement qu'avec de la compassion. Même s'il s'agissait d'une union entièrement fondée sur de l'affection, quand il se trouva à présent obligé de se séparer également de Miss Taylor, mais compte tenu de son léger penchant pour l'égoïsme et de son incapacité irrévocable à envisager qu'il soit possible de concevoir les choses autrement qu'il le faisait lui-même, il était tout à fait disposé à penser que la décision de Miss Taylor était tout aussi regrettable pour elle-même qu'elle l'était pour eux, et qu'elle aurait été bien plus heureuse si elle avait passé tout le reste de sa vie à Hartfield. Emma souriait et entretenait la conversation d'une manière aussi enjouée que possible, afin de le préserver de ce genre de pensée. Mais lorsque le thé fut servi, il lui fut impossible de ne pas répéter exactement ce qu'il avait déjà dit lors du dîner. « Pauvre Miss Taylor, j'aimerais tant qu'elle soit encore parmi nous. Comme il est regrettable que ce monsieur Weston ait pu lui prêter la moindre attention. » « Je ne peux vous donner raison, papa, vous le savez bien. Monsieur Weston est un homme si remarquable, si agréable et si charmant, qu'il mérite amplement une bonne épouse. Et vous ne pourriez pas souhaiter à Miss Taylor de vivre avec nous pour toujours et de devoir supporter toutes mes humeurs étranges, alors que la perspective d'avoir son propre foyer s'était offerte à elle. » « Son propre foyer. Mais quel avantage y a-t-il à avoir son propre foyer ? Celui-ci est 3 fois plus grand et vous n'avez jamais d'humeurs étranges, ma chère. »
Que nous aimons cette atmosphère très british, très... Ah, j'adore ça. Jane Austen, Emma, lu par Laurence Crambule, j'espère bien prononcer son nom. 18 heures quand même, hein, d'écoute. C'est sorti le 25 janvier 2024. Voilà, c'est ainsi que se referme cette émission pour cette semaine des Livres pleins les oreilles. Merci beaucoup à mes deux invités, Simon Bolduc et Gérald Cousineau. Merci Mathieu Tessier qui m'accompagne en régie. Je vous souhaite une belle semaine et de belles lectures en audio. Salut.